Vous écoutez France Culture.
À Moudre jusqu'à 19h. Vous pouvez télécharger cette émission et laisser vos commentaires sur franceculture.fr. Bonsoir à tous. La mode du nombril a inauguré le nouveau millénaire, comme si quelqu'un à cette date symbolique avait soulevé un store qui pendant des siècles nous avait empêché de voir l'essentiel, que l'individualité est une illusion. Extrait de La fête de l'insignifiance, le dernier roman de Milan Kundera, publié ce mois-ci aux fidèles éditions Gallimard. L'insignifiance ne doit pas être dénoncée, selon l'auteur, mais aimée et reconnue. Aucune certitude dans ce roman métaphorique. Une légèreté apparente, lestée de désespoir, une cabriole contre l'esprit de sérieux, sans certitude de déceler dans notre époque la moindre graine d'insolence qui lui donnerait un sens. Dans un cocktail où les jardins du Luxembourg, ces personnages se cherchent. Tous habité d'un manque, manque d'amour, manque de bonne humeur, manque d'humour. Pas la raillerie, pas la satire, pas le sarcasme, le vrai, écrit Milan Kundera, car c'est seulement depuis les hauteurs de l'infinie bonne humeur que tu peux observer au-dessus de toi l'éternelle bêtise des hommes et en rire. Discrédit de la parole publique et de toutes les formes d'action collective, promesses non tenues, crise économique, excès de la médiatisation, effondrement symbolique et intellectuel de nos valeurs, Kundera a choisi la forme du roman pour explorer au mieux ces zones grises de notre inconscient collectif, nous rappelle le chercheur Christian Salmon, qui fut son assistant dans les années 80. Nous avons choisi la forme du débat avec nos invités jusqu'à 19h. Nous allons donc nous poser une question, notre époque se prend-elle trop au sérieux ? Et invité ce soir pour en parler, l'écrivain Hervé Le Tellier tout d'abord. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, papou dans la tête, auteur d'un billet d'humeur, le papier de verre sur lemonde.fr. Et écrivain, je le disais et je le rappelle. À vos côtés, Jean-Michel Ribe également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur, metteur en scène et directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. Auteur entre autres de Le Rire de Résistance, qui est paru chez Beaux-Arts Éditions, en partenariat donc avec votre théâtre, où vous convoquez tous ceux qui depuis la nuit des temps s'opposent aux dogmes, aux hégémonies, aux stories de l'époque, par la force du rire, un manifeste de l'humour et de l'insolence. Est-ce que Kundera figurait d'ailleurs dans ce rire de résistance, dans ce catalogue manifeste ? À quelle place ?
Il n'y a pas de place. On ne met pas des numéros, on ne met pas des places.
Non, c'est par ordre
alphabétique. Il est donc à K.
Ah, parfait, bonne réponse. Jean-Pierre Winter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychanalyste, auteur notamment de Transmettre ou pas, paru chez Albin Michel. Messieurs, est-ce que vous vous sentez bien dans notre époque, Jean-Pierre Winter ? Est-ce que vous vous sentez en phase avec cette époque ?
Bon, je me sens déjà pas trop en phase avec moi, alors avec l'époque, ça redouble le problème. Pour certains aspects, oui. Il y a des choses qui me conviennent tout à fait dans notre époque. Et puis pour d'autres, je suis désespéré, mais complètement désespéré. Mais j'essaie de le masquer le plus possible.
Qu'est-ce qui vous désespère le plus ?
Justement la dérision qui se prend pour l'humour, l'ironie permanente qui se prend aussi pour de la drôlerie, l'incapacité à faire... Que la vie soit moins pénible qu'elle ne l'est du fait de nos conflits à la fois intérieurs et extérieurs. Et puis, ce qui me désespère, c'est le statut qu'on donne aux enfants. Un statut paradoxal. Alors, d'un autre côté, vous êtes en train de me faire parler sérieusement de la légèreté du monde. Mais enfin, bon, pour revenir aux enfants, le paradoxe qui consiste à leur donner une place de plus en plus royale, l'enfant roi, et d'un autre côté, de tout faire pour qu'on ne prenne pas au sérieux ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils éprouvent. Je ne parle pas seulement des cas extrêmes où on les brutalise. Non, je parle d'une manière générale dans la façon de considérer la place qui est la leur quant à l'avenir. la façon dont on leur parle, la façon dont on les manipule, la façon dont on fait que leur société n'est plus une société qui respecte les places, qui...
Ils font quand même beaucoup de choses pour les chaussures Nike.
Jean-Michel Ribes.
Ce que tu dis va aussi dans le sens de ma désespérance, c'est-à-dire la façon dont ils deviennent de plus en plus objets de consommation, à tous les niveaux. Hein. On ne va pas détailler, on ne va pas rentrer dans le détail, tout le monde comprendra de
quoi je parle. Objet au sujet de consommation, est-ce qu'on ne l'est pas tous aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un des caractères de cette époque, justement, non?
On peut imaginer que, étant devenu adulte, ayant appris un peu ce qui se passe dans la vie pour qu'elle soit à peu près vivable, on a les moyens de se défendre, alors que les enfants subissent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents, loin de là, loin de moi cette pensée. Mais en tout cas, ils sont les premiers à être l'objet de la société qui les objectalise, quoi.
Jean-Michel Ribes, alors vous, comment vous vous sentez en prise avec cette époque? Est-ce que vous dites comme Roland Topor, ça va, on tient ou je tiens?
Je tiens, oui. Tous les matins, il me disait ça. Je lui dis, tu vas bien? Il me dit, oui, je tiens, je tiens. Oui, je tiens. Moi, ce qui me désespère un peu, c'est le manque de rebond, le manque de sursaut, le manque de... Le manque de dadaïsme, la convention dans les raisonnements. Il y a trop de raisonnements, on raisonne trop, on ne pense pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'égarements, il n'y a pas assez de farfelus, il n'y a pas assez de choses qui nous permettent, de, comme disait Aragon, de creuser des galeries vers le ciel et d'aller ailleurs. Je trouve qu'on est dans une grande convention. Je trouve que la platitude formelle du raisonnement, de ce qu'il faut faire, de la moralisation, j'ai envie que ça... pète un peu, que ça craque, que ça explose, que ça... Et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, beaucoup moins qu'avant. Je trouve qu'il y a une espèce de longue plaine qui s'installe avec une chose qui est absolument horrible, qui est la simplification du langage, puisqu'on parlait du langage. C'est-à-dire que moi, une chose que je trouve épouvantable, c'est... Et ça, c'est d'ailleurs la montée formidable des gens comme ça, de l'extrême droite, de Copé, tout ça. C'est-à-dire de dire, vous savez, banalisons les choses. C'est-à-dire, il faut simplifier. Simplifier le langage, c'est pas éclairer le langage, c'est le réduire. Et c'est donc réduire les idées, et c'est donc dire le noir est noir, le blanc est blanc, le machin, etc. Et arriver pour que les gens soient rassurés à dire que tout n'est pas complexe. Or, je pense que notre
richesse... Mais tout n'est pas si simple aussi de dire que cette simplification du langage serait de droite ou d'extrême droite, si.
Si, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je pense qu'on essaie de rassurer les gens en simplifiant les choses. Mais moi, je pense que ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on soit extrêmement confus, extrêmement complexe, extrêmement nuancé. Et c'est notre richesse. C'est-à-dire, les choses ne se déclinent pas dans une mathématique de la pensée. C'est ça. Et je pense, puisqu'on parle d'humour... Pas beaucoup, mais enfin, on en parle, sans être drôle. Je pense que l'humour est ça. C'est quelque chose qui sent. C'est un nuage qui passe par-dessus tout ça et qui regarde ça avec l'arme la plus grande qu'a l'homme, qui est la fantaisie. Voilà.
Un mot des causes sur ce rebond ou sur cette volonté de sursaut que vous évoquez. Qu'est-ce qui met un couvercle, justement, sur cette volonté, d'après vous?
Je crois que. Puisqu'on a un psychanalyste avec nous, je pense que je me bats, moi, très, très violemment. Et je ne dis pas ça pour Jean-Pierre, qui fait plutôt partie des gens excitants quand il dit des choses. Je me bats contre la psychologie. Je trouve que la psychologie est une des choses les plus ennuyeuses et les plus ennuyeuses du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'écartais un peu du micro. Et je trouve que la psychologie, c'est une espèce de truc. C'est un inspecteur de police qui va chercher le criminel. Sauf qu'une fois qu'il l'a trouvé, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est une explication du monde permanente qui, au lieu... Moi, je pense qu'il ne faut pas expliquer. Je pense qu'il faut inventer. Je pense qu'il faut sortir absolument de ces notions de raisonnement, d'explication. Il faut aller ailleurs. Il faut sortir. Et c'est pour ça que je pense que la grande révolution culturelle, c'est quand même le dadaïsme. C'est-à-dire, tout d'un coup, après 2500 ans de civilisation, on fait 11 millions de morts, on arrête tout, ça pète, etc. Ça donne la conscience, ça donne le truc, ça arrive à l'Oulipo, ça donne l'écriture automatique. Tout d'un coup, ça ouvre des champs de possibles où je trouve qu'il y a une oxygénation et on repart vers quelque chose qui est autre chose que les trottoirs gris de la ville avec les feux rouges, les feux verts, les machins, les trucs. Et puis, on est complètement encadré.
Alors, moi, monsieur Oulipo, peut-être on va lui demander son avis sur cette époque, Hervé Le Tellier.
M. Oulipo, il a la tâche tous les jours de faire un billet dans le monde de deux lignes sur le monde entier. Donc il a des raisons de désespérer lui aussi. Alors, il y en a les 50. Hein. Dans les trois derniers jours, quand même, il y a eu toujours la crise d'Ebola qui est pareil en Afrique de l'Ouest. Il y a une statistique hallucinante qui est que 99% des femmes égyptiennes se sont fait agresser sexuellement. Et puis il y a le rapport du GIEC sur le climat qui est totalement désespérant. Donc on prend ces trois éléments-là, donc la santé publique mondiale, la condition des femmes et le climat, on a de quoi désespérer. Bon, puis finalement, je pense que contradictoirement, la condition des femmes, même en Égypte, elle s'améliore, même si la statistique dit une chose insupportable, mais je pense que ça s'améliore. Je pense que sur le climat, il va peut-être se passer des choses qui font qu'on prendra un jour des décisions. Et puis apparemment, la crise d'Ebola semble presque réglée parce que les États africains ne sont pas complètement inexistants et ont réussi à régler le problème avec les ONG. Donc il y a de quoi quand même parfois se rassurer. Sur le reste, évidemment, Jean-Michel a raison. Le langage, c'est un des lieux d'expression. L'humour, c'est, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est quand on rit quand même.
C'est magnifique. Voilà. C'est un Allemand qui a dit ça.
C'est un Allemand, c'est Max.
Je sais pas quoi, qui rit quand même. Ouais. Et la vraie définition de l'humour, la première définition de l'humour qui était l'humeur, c'est de dire quelque chose de drôle avec l'air triste. Ça, c'était les Anglais qui disaient ça.
Donc cette idée, quand on rit quand même, ouais. Man trotzdem lacht, ouais, comme on dit, c'est une idée très forte. C'est-à-dire que c'est l'idée fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de quoi désespérer. Et c'est peut-être parce qu'il y a de quoi désespérer qu'on peut se permettre de rire de ça. Et de trouver le moyen de trouver le levier pour en rire.
Le vrai rebond, c'est justement de ne pas faire du désespoir avec de la désespérance. Le vrai rebond, c'est de prendre de la désespérance pour en faire quelque chose qui l'explose et qui devienne de l'espoir.
Et notre époque, elle vous paraît si absurde aujourd'hui, quelque part, toujours pour citer Kundera, est-ce que notre inconscient collectif est passé en dessous du seuil d'insignifiance?
J'ai commencé par la phrase de Kundera sur le nombril. Alors, ce qui est assez bizarre, en fait, c'est que le nombril donne chez nous le nombrilisme, donc quelque chose qui est l'introspection, le retour sur soi, enfin le fait de s'observer. Alors que chez Kundera, c'est le contraire. C'est qu'il dit le nombril, c'est contrairement aux fesses, aux cuisses et aux seins des femmes, qu'il considère comme étant les trois lieux érotiques de la femme. Le nombril et sa visibilité objective aujourd'hui chez les jeunes filles, les jeunes femmes qui montrent leur nombril, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître une femme par ses fesses, par ses seins, par ses cuisses, mais on ne peut pas la reconnaître par son nombril. Donc il en tire la conclusion qu'au fond, c'est la disparition de l'individualité dans une impression, en fait, d'expression de cette individualité. Et ça, c'est une des... Il y a toujours chez Kundera des moments d'absolu génie de la métaphore sur la sexualité, sur la vie, sur le temps qui passe, etc. Et ça, c'est un des très très jolis moments du livre, avec un autre moment qui est aussi très intéressant.
Je le cite peut-être, son personnage dit « L'amour, jadis, c'était la fête de l'individuel, de l'inimitable, la gloire de ce qui est unique, voilà. De ce qui ne supporte aucune répétition, mais le nombril non seulement ne se révolte pas contre la répétition, il est un appel aux répétitions, et nous allons vivre dans notre millénaire sous le signe du nombril. »
Voilà. Et il y a un deuxième élément dans ce livre qui me semble être en résonance avec la question, disons, de l'humour, justement, ou de la désespérance. C'est la partie sur ce qu'il appelle les excusards. Et ça, c'est un très joli concept. Les gens qui vous faites bousculer dans la rue, il y a deux genres de personnes, ceux qui ne s'excusent pas et ceux qui disent pardon systématiquement. Moi, j'appartiens à cette deuxième catégorie des gens qui disent systématiquement pardon. Et en lisant le livre de Kundera...
Donc à la catégorie des faibles.
Des doux.
Des doux, exactement.
Des doux. Et surtout des intrus. Parce qu'ils définissent pas tellement la chose entre dureté et douceur, mais entre sentiment d'appartenance au monde et à la limite de manière schizophrénique de domination du monde. Et
de ceux qui encaissent la culpabilité au lieu de la renvoyer vers l'autre.
La culpabilité, et donc les autres qui encaissent la culpabilité parce qu'au fond, ils ne sont pas tout à fait certains d'être au monde. Et c'est ça, je crois, le problème de l'époque. C'est l'illusion d'être au monde. Au fond, avant, il y avait un doute. Et j'aimais bien qu'il y ait un doute sur le fait qu'on appartienne au monde ou pas. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut appartenir au monde, alors qu'en fait, on est par la consommation, on est la propriété du monde. Et cette idée forte est tout à fait bien exprimée dans le bouquin de Kundera.
C'est ça. C'est-à-dire, quand j'ai eu le moment, je cherchais un mot qui est simple, mais je trouve qu'il y a un manque de révolte incroyable. Incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une obéissance due à l'intelligence qui devient trop importante, trop grande, trop... Tout le monde s'accroche à des concepts. Etc. Il y a un manque de révolte. Il y a vraiment un manque de révolte dans le langage, il y a un manque de révolte dans les attitudes, il y a un manque de révolte dans la création. Il y a un manque de révolte. Je suis extrêmement inquiet de ça.
Et un manque d'humilité aussi, quelque part, non ? Il y avait ce monde que l'on pensait pouvoir contrôler et qui, aujourd'hui, finalement, à défaut de nous contrôler, qu'on a le sentiment de subir parfois. Hein. Quels sont un peu les symptômes pour vous, Jean-Pierre Winter, de cette perte de sens aujourd'hui ?
La première chose qui me vient quand on parle de ça, c'est la place justement qui est de plus en plus réduite pour tout ce qui relève de l'insignifiance. Ça tombe bien, c'est dans le sujet que vous avez proposé. Or, l'insignifiance, c'est absolument central. Par exemple, dans une cure analytique, quand on s'intéresse aux rêves, il est suggéré, il est conseillé de commencer à analyser un rêve en s'attachant à l'élément le plus insignifiant du rêve, c'est-à-dire ce sur quoi l'attention n'est pas immédiatement attirée parce que c'est la manière de parler ou c'est un proverbe ou ça n'a aucune importance. Or, en partant de l'insignifiant, on arrive dans les plus grandes profondeurs parce que sinon, on est dans un discours de la normalité. Et la normalité, c'est ce qui s'oppose à ce que Jean-Michel appelait le manque de révolte. Hein, c'est-à-dire, on ne se révolte pas. C'est pas étonnant d'ailleurs, puisque on nous propose comme idéal, à la place de la révolte, l'indignation. Indignez-vous. Alors, à partir du moment où vous ouvrez Internet, c'est plein d'indignation. Les gens sont indignés. Et puis ça s'arrête là. Pourquoi ? Parce qu'ils vont immédiatement dans le registre de. C'est assez frappant quand on le lit, à part le côté haineux d'un certain nombre d'interventions, le souci de la normalité. Ouais. Alors d'ailleurs, on a élu quelqu'un qui s'est fait fort d'incarner au plus haut niveau de l'État cet idéal de normalité. Or, la normalité, c'est quoi la normalité ? Qui est vraiment ce qui nous soucie, qu'on le sache ou pas, aujourd'hui, on est soucieux de normalité. On appelle ça le politiquement correct dans un autre domaine. C'est quoi la normalité ? C'est quand on ne prend pas au sérieux la plus grande partie de notre monde intérieur. Voilà. Vous prenez pas, par exemple, toi qui t'es beaucoup intéressé aux brefs de comptoir. Les brefs de comptoir, c'est des gens
qui... Jean-Pierre Witter qui interpelle Jean-Michel Rive.
Les brefs de comptoir, c'est quoi ? C'est des gens qui disent des choses qui sont parfois hilarantes, qui sont d'une très grande profondeur dans certains cas, qui sont quelquefois totalement révoltantes, mais qui sont obscènes, mais qui le disent sans prendre absolument la mesure de ce qu'ils racontent. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire ça, ils peuvent dire exactement le contraire de minutes après.
Jean-Pierre, je dirais juste une chose, c'est parce que c'est des gens qui sont exclus d'une certaine manière de la société, qui se réfugient dans un endroit qui s'appelle le bistrot, qui lui-même disparaît, où là, ils peuvent parler. C'est-à-dire là, tout d'un coup, ils peuvent s'exprimer. Donc, ils s'expriment. Et il y a des phrases géniales. L'avenir, je préférais celui d'avant. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est des gens qui ne s'écroulent pas en parlant et qui ne s'écroulent pas en disant des choses qui sont quand même absolument dignes, formidables, obscènes. Mais c'est un langage...
Mais parce que tu les relèves.
Le papier de verre d'Hervé Letellier n'est pas loin de la brève de comptoir. Hein. Si je lis ce que vous avez écrit jeudi dernier sur lemonde.fr, « Depuis 30 ans, nous vivons au-dessus de nos moyens », déclare Manuel Valls. Le problème, c'est donc que la majorité des gens vivent en dessous de la moyenne des moyens qu'ils n'ont pas.
Oui.
On vous voit réfléchir à ce que vous avez vous-même écrit.
Oui, j'ai dit ça, effectivement. Oui.
C'est une manière de...
C'est vrai que
de
ça
se
fait,
prendre trop au sérieux.
C'est bref de comptoir, à part que ça prend beaucoup plus de temps à écrire que non, la brève de comptoir.
Non, mais là, c'est un écrivain.
Mais il y a une dimension dans ce que je fais, il y a une dimension de vite, donc d'essayer d'exprimer en deux lignes des choses du monde, avec la difficulté que j'ai très peu de temps et en plus je ne sais pas en général ce que je pense avant de trouver la brève. Je dois longtemps réfléchir avant de savoir exactement ce que je pense. Sur la question, par exemple, des économies pour la France, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup plus de fraude fiscale qu'il n'y a de découvert. Donc peut-être que ça serait peut-être un meilleur moyen de creuser la fraude fiscale, mais je n'ai pas d'idée en tant que tel. Donc mon travail consiste plutôt à trouver la mauvaise bonne humeur ou la bonne mauvaise humeur, quoi. Essayer de trouver un moyen de faire levier, comme je le disais tout à l'heure. Mais la question de l'insignifiance, justement, c'est que on a toujours le rêve, lorsqu'on est entre guillemets humoriste, quand on fait... du papier de verre, de quelque chose qui doit gratter, on espère influencer, enfin avoir une influence. Et c'est pas une évidence du tout qu'on ait une influence. Parfois, j'aimerais pouvoir détruire des idées que je déteste par simplement la force du verbe. Je me rends bien compte que je n'ai strictement aucune influence sur la pensée de l'autre. C'est ça qui m'étonne le plus, au fond. Même si je trouve exactement la formule que j'ai envie de trouver.
Je ne crois pas que c'est tout à fait juste ce que tu dis.
Tu crois, Jean-Michel Ribes?
Non, je ne crois pas que c'est tout à fait juste. Je pense que justement, la force de l'aphorisme ou la force du discours court est souvent est quelque chose qui reste dans la tête et qui parfois éclaire les gens.
Peut-être.
Oui, éclaire les gens dans des situations tout d'un coup où ils retrouvent cette pensée. Mmh. Moi, je pense qu'aucun artiste, de toute façon, n'a fait tomber Staline et qu'on ne changera pas le monde, mais on le fait respirer. Mais ça nous permet d'être d'oxygéner et de supporter les choses. Tu vois, parce que j'ai beaucoup aimé une phrase que disait Staline. Il disait un monde qui va bien, un monde heureux n'a pas besoin d'humour.
Un peuple heureux n'a pas besoin d'humour.
N'a pas besoin d'humour, oui. Et ça, c'est quand même, ça montre bien la force de l'humour et la terreur qu'en avaient ces gens qui pensaient qu'un éclat de rire était plus violent qu'un éclat d'obus, quoi. C'est intéressant, ça.
Oui, en même temps, on a aujourd'hui une omniprésence du rire, des humoristes dans les médias. Est-ce que c'est du rire ou du ricanement?
Non,
oui,
non
c'est
moi,
ça,
je pense que là, il y a quelque chose. Enfin, je pense que Jean-Pierre en parlait très bien. Enfin, il y a un étouffement du ricanage, quoi. Le ricanement est une chose qui est absolument détestable et qui fait écran à toute possibilité d'humour en s'emparant de ce que doit être l'humour. Quoi.
Ce ricanement pourrait épuiser ou tuer le rire de résistance, comme vous l'évoquez.
Ah mais ça n'en fait pas partie. Oui, ça n'en fait pas partie. Le rire de résistance, c'est tout à fait différent. Moi, je pense simplement qu'il y a des gens qui, depuis Diogène, nous sauvent d'un esprit sérieux contraignant, des dictatures de la pensée, des formatages, de tout le truc. Il y a quand même des gens, du chevalier de la barre à Queneau, à l'Oulipo, etc., qui nous ont permis de respirer. Et quand on parle justement de l'Union soviétique, il y a eu sous le manteau un certain nombre de choses qui ont permis de supporter l'hégémonisme.
Le chevalier de la barre qui a retrouvé sa statue quelque part à Paris, non?
Oui, oui, parce que ça a été fondu par les Allemands. Donc on l'a refait. Le chevalier de la barre, c'est un jeune homme de 19 ans qui, sous Louis XV, éclate de rire quand il voit passer emplumé le Saint-Sacrement. On lui dit, mais vous allez vous renier. Enfin, c'est pas possible. Il dit, c'est drôle, tout c'est plus. Et il a refusé de renier son rire. On l'a écartelé, on l'a tué. Ça, c'est l'extrême. Le type qui rigole devant le peloton de. Comme ça, avec les fusils, c'est aussi l'extrême. Mais il y a des gens absolument formidables. Je veux dire, que ce soit Rabelais qui a réinventé la pensée, le langage, qui a redonné à la France. L'envie de vivre, l'envie de baiser, l'envie de manger. Il y a des gens qui ont bousculé l'affadissement des choses. Et tous ces gens-là, je trouve, sont des gens qui sont des héros, quoi, qui nous ont libérés.
Il y a quatre catégories du regard qu'on peut désirer, n'est-ce pas? Il y a des gens qui désirent d'être regardés par le public, c'est-à-dire par beaucoup de yeux anonymes. Ce sont les gens possédés de la gloire et de la notoriété. Puis il y a des gens qui désirent le regard des gens concrets qu'ils connaissent. Ce sont ceux qui font sans cesse des cocktails, des dîners, etc. Ensuite, ce sont les gens qui ne peuvent pas vivre sans regard de quelqu'un qui l'aime. Et la quatrième catégorie, ce sont les gens qui vivent sous le regard de quelqu'un qui n'est pas présent. Ce sont les rêveurs. Par exemple, je peux vivre sous le regard de mon père qui est mort.
Quatre catégories de regards que l'on peut désirer, selon Milan Kundera, invité d'Apostrophe en 84 pour la sortie de l'insoutenable légèreté de l'être. Dans quelle catégorie vous situez-vous, Jean-Michel Ribes?
Moi, je suis plutôt dans la catégorie de ce qui est du chant, c'est-à-dire l'œuvre est faite par celui qui la regarde. C'est-à-dire que je crois que ce qui est intéressant, c'est quand tout d'un coup le regard crée ce qui est regardé. Et je pense qu'il y a une catégorie comme ça, non pas de gens regardés, mais de regardeurs. Moi, je suis frappé au théâtre, par exemple, de gens qui, après certaines de mes pièces, viennent ou m'engueuler ou me féliciter en me racontant une histoire que j'ai absolument pas écrite, mais enfin que je crois ne pas avoir écrite. Donc ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes réinventé un truc. Et je pense que ça, que ce soit bon, les ready-made, etc., le regard créatif est quelque chose qui est extrêmement important. Moi, je suis dans ce regard-là.
Le regard des autres, Jean-Pierre Winter, dans quelle catégorie vous, si vous retenez ces quatre catégories fixées par Milan Kundera, vous vous situeriez ?
J'aime pas trop ces catégories. Ça me fait penser à cette formule de Lacan qui disait « le sérieux, c'est l'esprit de série ». Voilà, on met en série les regards. À vrai dire, je me suis jamais posé ce genre de questions. La question que je me suis posée, c'est comment échapper à un regard envahissant qui est celui du surmoi, quoi, celui qui me dit ce que je dois faire, comment je dois le faire, comment je dois le dire. Voilà, c'est plus, mon souci, c'est plutôt de m'en écarter et d'essayer de retrouver quelque chose de mon regard, sachant que bien sûr, il est dépendant aussi de celui qu'on porte sur ce que je dis, sur ce que je fais, sur ce que j'ai fait, etc. Mais je le classifierai pas, enfin, je ferai pas ce genre de classification.
Hervé Letellier, vous pointe, nous regardons depuis une vingtaine de minutes comment notre époque évolue et on peut aussi se demander comment notre époque nous regarde ou comment les autres nous regardent.
Moi, ça ne me déplaît pas ces catégories-là. Enfin, je veux dire, elles fonctionnent comme toutes les catégories, c'est-à-dire plus ou moins, on peut plus ou moins s'adapter à cette catégorisation-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours en fait un dispositif supplémentaire qui est que même constitue par rapport à un cercle vaste ou le cercle du grand autre. Par exemple, le Gary, pour moi c'est clair, Gary il écrivait pour sa mère. Il avait toujours ce regard de sa mère sur tout ce qu'il faisait. Et on voit bien qu'il y a toute une série de créateurs qui sont dans un...
Vous avez vu où ça l'a mené, hein.
Oui, c'est vrai. C'est typique aussi de ce genre de destin.
Je ne dis pas que ça n'existe pas, tous ces regards, hein, mais il ne faut pas les magnifier.
La question est-ce que sous ces regards, comment on se sent ? C'est ça fondamentalement. Moi, je crois que de temps en temps, la santé mentale exige qu'on se sente un peu imposteur. Et que toute la logique d'être sous ces regards-là, c'est de se dire, mais qui je suis pour y être, voilà. Et même si c'est sous le regard d'un grand autre, qui soit quelque chose de religieux quasiment, ou quelque chose de mythifié, comme le père, la mère disparue, voilà. C'est la question de l'imposture. Si on se croit jamais imposteur, je crois qu'on n'est jamais créateur.
Oui. Il faut casser quelque chose, mais il y a aussi un regard qui est intéressant, surtout quand on démarre, quand on est jeune auteur, c'est le regard de la critique. Et le regard de la critique, c'est quelque chose de très intéressant, parce que vous apercevez que 5 ans après, par exemple dans le même journal, quand d'autres critiques arrivent, vous êtes regardé d'une manière absolument contraire. Et ça, je trouve que c'est très grave. Parce que ça peut tuer des gens qui, 5 ans après, auraient été élevés au rang de grand créateur. Et le regard, il y a un vrai questionnement sur la critique. Évidemment, la critique est beaucoup plus difficile que l'art, mais c'est quand même quelque chose qui est un regard permanent et un jugement permanent et un regard permanent sur ce que vous faites.
Difficile de s'en abstraire. Notre époque se prend-elle trop au sérieux ? Invité du Grain à Moudre jusqu'à 19h sur France Culture, Jean-Michel Ribes, metteur en scène, Jean-Pierre Winter, psychanalyste, et Hervé Letellier, écrivain. On revient sur cette question du rire. Milan Kundera, dans sa Fête de l'insignifiance, écrit que le plaisir de la mystification devait vous protéger. Cela a d'ailleurs été notre stratégie à tous. Nous avons compris depuis longtemps qu'il n'était plus possible de renverser ce monde, ni de le remodeler, ni d'arrêter sa malheureuse course en avant. Il n'y avait qu'une seule résistance possible, ne pas le prendre au sérieux. De quoi la facétie peut-elle nous protéger, Jean-Michel Ribes ?
Non, moi, je pense que c'est l'arme absolue. C'est ça et la fantaisie dans ce que ça a de fort, dans la fantaisie, dans le fantasme, la fantasmagorie, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand ce qui est sérieux, c'est-à-dire ce qui est raisonné, ce qui est une réalité qu'on nous dit définitive, vous savez, il y a ce mot de Skutner qui disait « moi, je veux regarder la réalité en farce ». On ne peut pas dire quand même que si on n'a pas la fantaisie pour se libérer, le sérieux est quelque chose qui... non seulement est une série, mais qui est une chose qui vous dit, voilà, le monde est comme ça, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce monde, vous ne pourrez pas y vivre. La seule manière d'en sortir, et pour les gens qui ne sont pas équipés à supporter ce sérieux, c'est cette capacité de fantaisie, c'est cette capacité de facétie qui détruit les murs du raisonnement qui nous emprisonne et qui surtout détruit notre capacité à inventer et à devenir autre.
Mais nous dit Kundera, les plaisanteries, certaines sont devenues dangereuses. Est-ce que le rire a perdu de son pouvoir, Jean-Pierre Winter ?
C'est difficile de parler du rire en général. Est-ce qu'il a perdu de son pouvoir ? Ça dépend pour qui. Ce qui me paraît frappant dans le rire, c'est que, au fond, c'est l'arme de destruction massive contre la mélancolie. Mais pas parce que ça s'oppose à la mélancolie, parce que c'est au cœur même de la mélancolie. Les mélancoliques sont ce que nous sommes à peu près tous, hein, mais tous plus ou moins. Les mélancoliques sont des gens qui sont d'une drôlerie, d'une inventivité dans la drôlerie. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit clair. Par exemple, non pas, quand je dis mélancolique, c'est pas une classification psychiatrique, ni même psychanalytique. C'est cette mélancolie qui nous habite tous, quelles que soient par ailleurs nos névroses ou nos pathologies diverses. Prenons l'exemple de Kafka, par exemple. On peut lire Kafka comme une œuvre d'une tragédie, un truc absolument dramatique, voilà. Ou bien on peut le prendre, comme l'a pris son premier traducteur,
Vialat,
en français, Vialat, on peut le prendre comme une œuvre d'une drôlerie extrême.
Absolument.
Par exemple, dans le procès, quand il raconte qu'il est situé dans les étages les plus hauts du tribunal, et que c'est un étage où pour s'asseoir, il faut se protéger. C'est tellement bas, il faut se protéger du plafond qu'il faut se mettre un coussin sur la tête. Si on se représente la scène, elle est d'une drôlerie extrême. Mais c'est la drôlerie du mélancolique. Et notre époque nous pousse à la mélancolie par son rejet, justement, de ce qui est créatif, de ce qui est pas à la portée de la normalité moyenne.
Et c'est donc, pas formaté, quoi.
C'est pas formaté. Mais par contre, c'est pas non plus dérisoire. Bien qu'il y a quelque chose dans le dérisoire et pas dans la dérision qui pousse justement au comique et qui pousse à la drôlerie. Par exemple, s'apercevoir après X années d'analyse que notre vie a été orientée sur un malentendu, sur une équivoque. À la limite, c'est dérisoire. C'est pas de la dérision. D'ailleurs, quand on en arrive à ce point de son analyse de se dire « Mais toute ma vie a été conduite par une équivoque dont j'avais pas saisi que c'était une équivoque. » Il y a un moment de désespoir, hein, un moment où on se dit « mais c'est donc que ça ?» Et cette équivoque, en général, elle est drôle, c'est un jeu de mots. C'est juste, c'est pas grand-chose, c'est juste un ou deux jeux de mots sur lesquels on a bâti notre existence. Eh bien, regardez autour de vous, regardez autour de nous, la plupart des gens sérieux, qui ne veulent pas faire de place à tout ce dont on parle là, sont des gens qui n'aiment pas le comique, qui le considèrent comme totalement secondaire, qui n'aiment pas les jeux de mots. Je lisais encore là à propos de Libération, des articles, Libération qui va si mal, des articles disant « Oh, mais Libération, avec ses jeux de mots dans les titres, c'est vraiment fatigant, quoi. Bon. » Je préfère un journal qui donne du sens aux événements par des jeux de mots, un journal qui croit nécessaire de ne parler que de ce qui serait le sérieux. Et en plus, comme psychanalyste avec des enfants, je sais que la seule chose qui est sérieuse, c'est le jeu. Les enfants jouent sérieusement, mais ils jouent. Et donc, tout ça pour dire que, au fond, il y a dans les moments de mélancolie, dans les moments de profond désespoir, la source du comique, la source de la légèreté. C'est insoutenable parce que, je ne sais pas si Kundera pensait à ça quand il l'a dit ou quand il l'a écrit, parce que, au fond, la légèreté, c'est ce qui nous plonge au cœur même de ce qui fait notre mélancolie.
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas, assez superficiel, moi. Je pense que c'est très important d'être superficiel parce que c'est la surface des choses qui finalement... Et c'est cette volonté d'être, je disais tout à l'heure, trop intelligent. C'est ce que Nietzsche disait quand il disait « faut pas rester trop au fond des choses parce qu'on risque d'y rester ou de mourir refroidi ». Je pense qu'on n'est pas assez superficiel. Et la superficialité, c'est l'endroit quand même où il y a le farfelu, il y a le super... Et où on voit les choses. Et c'est à la surface. Et moi, je pense que... voilà, qu'il ne faut pas... d'ailleurs, je vais arrêter parce que je pense que je ne deviens pas superficiel.
Mais comment justement, sous prétexte de... comment sous prétexte de légèreté, ne pas tomber dans le trop de divertissement, le divertissement à outrance, et comment revenir à l'essentiel, quelque part,
Hervé? C'est la qualité, La légèreté, ça dépend qui l'a fait.
Là, dans l'extrait que vous avez donné sur, de Kundera, sur l'idée du déguisement, il faut préciser qu'il se déguise sous une autre langue. C'est-à-dire que le personnage décide qu'il parle pakistanais pour se couper d'une certaine manière de son propre langage, et il se déguise en pakistanais, ce qui lui permet d'exister. C'est une idée assez forte, c'est-à-dire que ça rejoint l'idée de l'imposture. C'est-à-dire que justement, sous un déguisement, on arrive à être soi. Parce qu'on n'est pas dans une quête de sens de sa propre vie, on n'est pas dans une quête vaine de qui on est. Dans le masque dont parle Pessoa, qui sert de matrice à sa création personnelle. Et donc, on est libre sous le masque comme on est libre dans le jeu. C'est du même ordre. C'est-à-dire que le jeu et le masque participent de la même chose, c'est-à-dire d'un positionnement du soi ou d'un positionnement par rapport à la langue. Pour les Oulipiens, par exemple, quand on travaille sur la langue, on joue avec la langue, mais c'est parce que c'est un jeu de manipulation, c'est un jeu de contrainte et de manipulation. Et dans le travail sur la quête du soi, il y a cette question permanente de vouloir absolument se donner une direction. Dans le masque, il n'y a pas ça. Et on a une totale liberté. Mais,
sauf que soudain, cette mystification leur semble ou lui semble assez vaine.
Oui. Et c'est là que ça devient insoutenable. C'est la vanité de cette mystification qui lui semble insoutenable. Mais c'est notre lot commun que d'être confronté à la vanité. C'est ça qui est douloureux.
Donc revenons à ce qui peut aujourd'hui, d'après vous, faire sens dans notre époque. On a souvent noté, validé la fin des grandes aventures collectives. Comment est-ce qu'on peut...
Pas toutes.
En revenir à l'essentiel.
Pas toutes. Il reste encore deux aventures collectives. Un, survivre sur cette planète. Ça va devenir une vraie aventure collective.
Ensemble.
Survivre ensemble sur cette planète. Et puis deux, la science. Qui reste encore une aventure collective, et peut-être une troisième, je vois.
Ou une croyance collective,
une troisième,
en tout cas.
D'ailleurs, le mot est dans l'extrait aussi que vous avez lu de Kundera, c'est le plaisir. Et le plaisir et le désir sont des choses bannies par le sérieux. C'est des choses dangereuses pour le sérieux. Et je crois que le plaisir, c'est quelque chose qui fait vivre, et c'est quelque chose qui est très mal vu, comme le rire était mal vu par l'Église pendant des années de ça. Mais la notion de plaisir et la notion de désir, c'est aussi une aventure collective qui doit nous permettre de continuer à vivre.
Jean-Pierre Winter.
Vous avez remarqué une chose, c'est que les religions, en tout cas occidentales, se méfient du rien. Elles sont tragiques.
Il disait Jésus n'a jamais ri.
Il n'y a pas que lui.
Oui.
T'as un exemple de Jéhovah en train de...
C'est ce que disait Bossuet.
L'extraordinaire Gottlieb avait mis en scène dans une BD comme ça un cartel des dieux avec Bouddha, Mahomet
dans les
cours des savanes, Jéhovah et Jésus qui se fendaient la pêche.
À l'Olympe, ils se marraient quand même. Ils se tapaient des animaux, enfin ils étaient pas.
Oui, c'est pour ça que je dis nos religions occidentales d'aujourd'hui, on rigole pas. Mmh. Et d'ailleurs notre époque témoigne de ça. On ne rigole pas avec la religion. On rigole pas avec Dieu. Et Dieu lui-même ne fait pas de jeu de mots, il n'est pas drôle, ça le fait pas rire, sa création. C'est un point assez intéressant. Alors, il y a une aventure collective bizarre que je reprends de votre intervention de tout à l'heure. L'inconscient collectif. Mais ça n'existe pas, ça, l'inconscient collectif. Il n'y a pas d'inconscient collectif. L'inconscient, il est justement pas collectif. C'est la part de notre subjectivité, de notre singularité. La seule chose qui est collective...
Moi, j'aurais dû réfléchir avant de dire ça devant un psychanalyste.
La seule chose qui est collective, au contraire...
J'espère que je n'ai pas dit moi, au moins, durant cette...
Non, mais la seule chose qui est collective, c'est notre résistance à l'inconscient. Parce que notre créativité, notre singularité, elle est justement pas collective. C'est faire de la place à cette individualité, pas au sens de l'individualisme, mais au sens de ce qui nous permet d'échapper à la normalité, au formatage, etc. Ça, c'est pas collectivisable. Or, la normalité, c'est la recherche. La normalité, en tant que ça représente le sérieux de notre époque, c'est la recherche de l'abandon de tout ce qui serait proprement un trait particulier de chacun. Qui pourrait revendiquer, et pas par narcissisme, mais parce qu'il se trouve que paradoxalement, quand on atteint ce qu'il y a de plus particulier en soi, Et donc, encore une fois, c'est souvent rien d'autre qu'un mot d'esprit, un vice, comme vous disiez tout à l'heure. Quand on atteint ça, on touche à quelque chose de l'universel.
Voilà, on ne se l'indique pas qu'on aura réussi à s'échapper pendant 40 minutes et à ne pas évoquer l'insoutenable légèreté ou normalité du pouvoir et de nos décideurs. On va terminer sur cette phrase de Milan Kundera. Respirer cette insignifiance qui nous entoure, elle est la clé de la sagesse, elle est la clé de la bonne humeur. Je vous souhaite plein de bonne humeur. Merci beaucoup, messieurs, du Grain à Moudre, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc et Fanny Richet, et réalisée ce soir par Jean-Christophe Francis. On se retrouve demain pour un 5 à 7 spécial Mali. D'ici là, très très bonne soirée à tous. Tout de suite sur France Culture, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir.